Kiosque Magazine.
Bonjour à tous et bienvenue. Le Kiosque Magazine du lundi 23 février est ouvert au rayon de la culture et de la société. Et à l'animation, Franceline Nouvia. Bonjour,
oui.
Franceline.
Bonjour, Roger. Bonjour à chacun.
Et Roger Roy, en régie, celui qui va nous guider et nous accompagner pendant l'heure qui s'en vient, c'est Jean-Sébastien Laliberté. Et nous avons au menu aujourd'hui,
oui,
Franceline.
Alors moi, je commencerai en ce début d'année, trois personnalités ont été interviewées par le journal L'Itinéraire du 1er et 15 janvier sur leurs projets ou réflexions pour cette année 2015. Mon deuxième article portera sur la question « Votre milieu de vie est-il sain ?» C'est dans le Bel Âge. Et le troisième sur « Intervenir dans les conflits de nos enfants adultes », c'est aussi dans le Bel Âge par Jacqueline Simoneau.
Pour ma part, je vous parlerai d'un pharmacien un peu chialeux, râleur, comme on dirait en France. Je vous parle aussi de la chaîne du livre qui nous est décryptée par l'actualité. Mais pour tout de suite, un texte que je suis allé lire dans le Reader's Digest édition du mois de janvier, Une école de proximité, c'est Suzanne Pinker qui signe le papier. Elle écrit ceci, « Je vis au Québec, province qui a l'un des taux les plus élevés d'abandon scolaire au Canada. Près de 40 % des garçons ne terminent pas leurs études secondaires, la moyenne canadienne est de moins de 20 % un peu moins de 20 %. En 2012, avant la fin de l'année scolaire, Lynn Beauchamp, alors ministre de l'Éducation du Québec, a informé la presse que les taux de réussite de plus de 250 écoles secondaires ne seraient pas publiés parce que cela démontrerait un taux d'abandon de 100 % dans plusieurs établissements, ce qui minerait la confiance en soi des élèves et le moral des enseignants. Oui. Sans diplôme d'études secondaires, la majorité de ces jeunes se condamnent, eux et leurs enfants, à la pauvreté. Le problème est certes complexe, mais les décideurs politiques et les enseignants auraient plus d'influence sur ces adolescents fragiles s'ils mettaient en pratique ce que nous savons sur la valeur des contacts humains directs. Un geste très simple. Une rencontre avec un élève en difficulté peut conjurer ce qui paraît inévitable à un jeune de 16 ans découragé. Au mois d'août 2011, quatre enseignants et conseillers pédagogiques à la retraite de Toronto ont utilisé une subvention dans ce but précis, une subvention assez minime de 12 000 $. Pendant deux semaines, en marge des habituelles relances administratives par courriel et appels robotisés, ils ont téléphoné à tous les élèves du niveau secondaire qui avaient quitté l'école à la fin de l'année scolaire et ne s'étaient pas réinscrits. L'équipe voulait leur parler pour savoir ce qui n'avait pas fonctionné et ce qu'elle pouvait faire pour les aider. Cette démarche à l'ancienne a ramené en classe 864 des 1667 décrocheurs, un taux de réussite de plus de 50 %. Davia Jackson était du nombre. Sa famille avait déménagé pendant sa 11e année. Elle ne voulait pas changer d'école, mais quand elle avait essayé de s'inscrire en 12e, là où elle étudiait l'année précédente, elle s'était heurtée à un dédale bureaucratique qu'elle était prête à abandonner lorsque l'équipe l'a contactée. « Cet appel-là a fait toute la différence », raconte-t-elle. « Il m'a redonné courage au moment où je cédais au désespoir. » Il est peut-être difficile de croire qu'une démarche aussi simple puisse fonctionner. Le fait est que le contact humain agit comme un vaccin. Une petite dose peut prévenir beaucoup de souffrances et d'occasions manquées tout en faisant épargner des milliards au réseau de la santé et des services sociaux. Nous ne faisions que tendre la main et dire « Reviens ». « Tu nous manques », explique Christopher Ushi, directeur du projet. En Occident, ce sont surtout les garçons qui ont du mal à poursuivre leurs études. Ailleurs dans le monde, ce sont les filles. En dépit de l'objectif des Nations Unies d'un accès universel à l'éducation primaire d'ici 2015, 58 millions d'enfants ne vont toujours pas à l'école pour la plupart des filles vivant dans des pays en développement. Même là où il y a des écoles, elles sont souvent trop loin de la maison pour que les parents les laissent faire le trajet toutes seules. La distribution massive d'ordinateurs portables n'a pas résolu le problème de l'accès à l'éducation. La présence d'un enseignant, par contre, semble améliorer la fréquentation scolaire de tous les élèves et surtout la réussite des filles. Alors, le texte est assez long, il se poursuit. Je vais continuer à vous en lire des extraits. Étant donné que l'enseignement assisté par ordinateur coûte moins cher que la formation d'un excellent professeur, la multiplication des classes virtuelles ne peut qu'aggraver la situation. Ce n'est pas de l'alarmisme. La formation sur portable, les classes virtuelles et les cours de masse en ligne passent souvent pour la solution magique aux problèmes des populations scolaires défavorisées ou mal desservies. Ces cours au format attrayant suscitent un extraordinaire engouement. Certains sont suivis par des centaines de milliers d'élèves. Mais attention, les résultats de cet enseignement sans enseignant donnent toutefois à réfléchir. En moyenne, 90 % des inscrits abandonnent en cours de route. Sans horaire, sans salle de classe, sans possibilité d'être encouragé ou évalué, les élèves pauvres, inexpérimentés, marginalisés, ceux que les promoteurs de ces cours de masse disent vouloir aider, sont aussi ceux qui ont le plus de risques, donc qui ont le plus de risques d'échouer, c'est ça. Pendant ce temps, les parents et élèves nantis font exactement le contraire. Ils paient plus cher pour nouer et préserver des contacts directs avec des enseignants qualifiés au sein de petites classes. Ces enseignants proposent des discussions dirigées, le tutorat ou des leçons pratiques. Les enfants d'Alan Eagle, qui est responsable des communications de la haute direction de Google, fréquentent une école Waldorf qui fait peu de place aux nouvelles technologies. Le coût annuel, quand même, c'est 16 800 $ US par élève.
Oui, il faut des moyens.
Oui. Nous rendons la technologie aussi simple d'utilisation que possible. Il n'y a pas de raison que les enfants ne parviennent pas à la maîtriser quand ils seront plus grands. Dans un livre publié en 2011, Learning in the Cloud, le spécialiste en éducation Mark Warshauer souligne que l'implantation de classes virtuelles est d'ores et déjà décidée selon des critères budgétaires plutôt que des preuves d'efficacité. Nous vivons à l'ère du numérique, dit l'auteur de l'article, dans un monde où la vie est plus longue, plus mobile et bien souvent plus solitaire que jamais. Il faut que nous prenions le temps de nouer, nourrir et renforcer nos relations avec nos semblables. Nous serons tous plus heureux, plus vigoureux, moins vulnérables à la maladie et au désespoir si nous pouvons étancher notre soif de contact humain authentique. Alors, c'est un texte qui est publié dans le Reader's Digest du mois de janvier. Tout le monde a besoin de contact humain, surtout les élèves. Par Susan Pinker.
Alors maintenant, trois questions. D'abord à José Blanchette. La chroniqueuse José Blanchette est unique en son genre. Celle que tout le monde appelle Joblo s'est démarquée au fil des ans avec sa plume ardente. L'auteur est passé maître dans l'art de nous remuer, de nous émouvoir et de nous transporter à travers les aléas de la vie. Alors, première question, on commence l'année 2015 sous le signe de l'austérité. Est-ce qu'écrire est encore un bon moyen de revendiquer ? Oui, dit-elle, surtout lorsqu'on a la chance d'écrire pour un média indépendant. Depuis 30 ans que j'écris pour Le Devoir, je n'ai jamais été censurée. Écrire est une bonne façon d'exprimer nos idées parce qu'on a le temps de réfléchir. Ce n'est pas dans un clip de 10 secondes à la radio ou à la télévision qu'on peut le faire. Dans nos médias, il y a de moins en moins d'espace où on peut approfondir nos idées. Dans les émissions, on invite maintenant 4 personnes autour d'une table pour discuter d'un sujet en quelques minutes seulement. Je ne sais pas si elles ont peur qu'on s'ennuie ou qu'on n'ait rien à dire, mais personne n'a le temps de s'exprimer. Dans un tel contexte, écrire donne plus de latitude. Mais encore faut-il qu'il y ait des lecteurs. Avec 49% d'analphabètes fonctionnels, c'est bien beau d'écrire, mais il faut aussi du monde pour lire. Pour ça, il faut de l'éducation. Tout part de l'éducation. Pourquoi l'écriture est-elle pour vous le meilleur moyen d'exprimer vos idées et vos émotions ? C'est la forme de communication la plus intime, où on peut avoir accès aux pensées, à l'âme, au cœur. Avec l'écriture, on peut entrer dans l'émotion, on peut peaufiner ce qu'on souhaite transmettre comme message, mais écrire demande du temps. Une chronique ne s'écrit pas sur un coin de table en 5 minutes. On ne soupçonne pas tout le travail qu'il y a derrière et les heures de recherche. Il faut du temps pour bien structurer sa pensée. L'écriture est vraiment un lieu de réflexion fondamentale. Elle est d'ailleurs derrière le cinéma, le théâtre, la chanson. Tu peux être un bon chanteur, mais si tu chantes des niaiseries, ça n'aura pas autant d'impact. Quand tu écoutes Fred Pellerin, il y a de beaux arrangements sur son dernier album, mais ce sont surtout ses mots et son écriture qui nous touchent. Tout le monde peut connaître les lettres de l'alphabet, mais savoir écrire est un art. Quels sont vos projets pour 2015 ? Je suis en train d'écrire un livre sur le cancer. Un autre livre sur le cancer, me direz-vous, mais il sera à ma façon. Je n'en dis pas plus, je vais continuer d'écrire des chroniques s'il y a encore un journal. Maintenant, les trois questions à Marc Séguin, qui est un artiste multidisciplinaire de renommée internationale. Marc Séguin passe sa vie entre New York et Montréal. Dans son atelier à Brooklyn, il s'inspire très souvent de l'actualité et des grands moments de l'histoire. Au fil des ans, il a mis de l'avant dans ses œuvres des personnages aussi variés que le pape, Hitler et des terroristes en robe fleurie. Dans quelle mesure l'art peut-il servir à dénoncer les injustices ? L'art peut encore montrer du doigt, mais il est malheureusement devenu un objet de luxe. C'est devenu une sorte de commodité plus qu'un objet de revendication. Dans notre société, il reste de moins en moins d'espace où l'on peut se faire entendre. Il reste le journaliste d'opinion, où il est possible de dénoncer des crocheries, mais c'est de plus en plus difficile de le faire. Cela dit, je crois encore à la force de l'art et au travail des artistes. C'est encore notre job de signaler ce qui ne va pas. C'est notre travail de forcer les gens à s'arrêter 2 minutes pour proposer une lecture différente de notre monde qu'on ne verrait pas autrement. Mais on fait une place de plus en plus. Mais on fait une place à l'industrie du divertissement ces temps-ci plus qu'à l'art. On formate des gens et on encense plus les interprètes que les créateurs. On devrait pourtant célébrer plus les créateurs qui partent de zéro. Pourquoi l'art est-il un bon moyen d'exprimer vos émotions ? Tu n'as pas besoin de connaître des mots pour faire des marques sur une feuille. Il y a quelque chose de primitif dans l'art, dans le geste de laisser une trace. Cette trace-là peut par la suite être utilisée pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Ça devient alors un pouvoir et un outil incroyable pour s'exprimer. J'ai toujours cette étincelle de vouloir marquer, de laisser une trace. Mon inspiration vient d'ailleurs souvent d'une indignation, d'une injustice sociale ou de certaines aberrances. Je viens de faire un tableau du criminel Charles Manson qui a plus de 80 ans et qui vient de se marier avec une fille de 26 ans. Pour moi, c'est ridicule que les médias lui accordent encore de l'attention après toutes les horreurs qu'il a commises. Je trouve ça odieux et c'est ma façon de montrer ce qui ne fonctionne pas dans notre société. Alors, quels sont les projets pour vous en 2015 ? J'ai une exposition qui commence le 15 janvier à New York. Elle s'appelle « I love America » et « America loves me ». C'est une exposition assez critique sur l'Amérique. J'ai fait ce portrait de Charles Manson, mais aussi d'Elvis, des icônes qui sont aussi devenues en quelque sorte des monstres. Et enfin, Jacques Languirand. Quel chemin prendre en 2015 ? Depuis plusieurs années, Jacques Languirand est aussi le porte-parole du Jour de la Terre. Ce grand amoureux de l'humanité s'est engagé dans un long combat pour protéger tant notre planète que ceux qui l'habitent. Alors qu'il est encore temps de lutter contre les changements climatiques, il nous a fait part de quelques-unes de ses réflexions qui devraient nous guider en 2015 et pour les années à venir. La première, ouvrir nos yeux. Ce qui n'est pas visible est souvent difficile à croire. On se le figure, mais c'est comme si un voile nous empêchait d'y voir clair. Un voile opaque, tel un voile de plastique, brouillant ainsi toute visibilité. Imaginez maintenant ce voile de plastique sur un océan. Une énorme plaque de déchets flottante, se nourrissant des débris au passage. Loin de nous, on a peine à croire à ce 8e continent, mais le Pacifique, lui, abrite bel et bien cet étranger. Un étranger fabriqué par nous, nos déchets de plastique et notre inconscience. Loin de nous, rien n'y paraît, mais poissons, oiseaux et espèces marines côtoient cet étranger et en ingèrent les particules. C'est ainsi que ce voile de plastique nous revient bien malgré nous. Un voile étiolé et effrité qui laisse entrevoir la réalité. Le voyez-vous ? Aussi, mieux respirer. À moins que nous n'y portions attention, l'air va et vient dans nos poumons sans que nous ne fassions d'efforts particuliers. C'est ce souffle instinctif et naturel qui nous permet d'avancer, de réfléchir, de vivre au quotidien. Arrive alors un moment où un obstacle se présente, une précipitation s'installe. Inspiration et expiration s'accélèrent, s'entrecroisent frénétiquement. Le corps déploie ses attirails lourds afin de maintenir une respiration constante nécessaire. Ce souffle en est un de vie pour nous, tout comme pour notre planète qui en redemande, attend sa bouffée d'air salvatrice. Et enfin, prendre conscience. Cette année, fêtons, mais fêtons différemment. Fêtons nos changements et l'amélioration de nos comportements. Avec la répétition naissent des habitudes qui nous imprègnent de façon innée sans que nous ne le réalisions. Ces automatismes presque mécaniques rythment nos vies, guident nos gestes. Bons ou mauvais, un geste habituel, aussi insignifiant soit-il, peut se révéler lourd de conséquences pour notre belle planète. Le mauvais peut nous faire sentir coupables, le bon nous rendre fiers. De l'un vers l'autre, le changement d'habitude s'opère déjà. Réemploi, recyclage ou compostage, transport en commun ou covoiturage. Les actions positives nous accompagnent pour modifier progressivement notre conscience environnementale. De nouvelles pratiques plus responsables nous transforment. Continuons donc, progressons et encensons chacune de nos victoires. Alors, bonne année 2015. Voilà, c'était des propos publiés dans le journal L'Itinéraire du 1er et 15 janvier 2015.
J'aime les choses inutiles, les bonheurs tranquilles qui ne coûtent rien. Les couchers de soleil sur la ville, les bibelots débiles, les orchestres anciens. Le chant des bruants sur les fils, les poissons d'avril, tous ces petits riens qui nous rendent la vie moins futile. J'aime les choses inutiles qui nous font du bien. Moi j'aime les choses inutiles, les disques en vinyle, les contes de fées, le charme fuyant d'un profil perdu dans la file des passants pressés. Les langoustines sur le grill, les masques d'Échille, les parfums légers, les photos où l'on fait des mille. J'aime les choses inutiles qui nous font rêver. Moi j'aime les choses inutiles, la joie de Lucie. Qu'en est-ce les fleurs? Un film de Buffalo Bill, une automobile en panne de moteur, la voix des poètes en exil, toujours en exil, du jour et de l'heure, les couleurs de leurs chants fragiles. J'aime les choses inutiles qui nous parlent au cœur. Je rêve d'un monde indocile où les crocodiles et les orchidées auraient chaque année bissextile le droit d'être une île ou même députée. La vie n'en serait pas plus facile, l'argent moins servile, mais on peut rêver. Et tant pis si je passe pour un fossile. J'aime les choses inutiles qui donnent à chanter.
le regretté Sylvain Lelièvre. Dans la revue L'Actualité du mois de décembre, Noémie Mercier nous dit comment décrypter la chaîne du livre pour passer de l'auteur au lecteur. Tous les bouquins doivent emprunter le même chemin, une série d'étapes définies par la loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre. Cette loi est dite loi 51 et a été adoptée en 1981. Cette chaîne est conçue de manière que chaque maillon soit redevable aux autres. Selon Denis Vaugeois, ancien ministre des Affaires culturelles et principal artisan de la loi 51, celle-ci a mis au monde la filière québécoise du livre en permettant aux libraires et aux bibliothèques de germer partout sur le territoire. Pour bien apprécier ce qu'on a, il faut voir d'où on est parti, dit-il. À l'époque, il y avait une seule bibliothèque francophone à Montréal. Il y avait très peu de librairies. Et si on voulait acheter un livre un peu rare, il fallait attendre 2-3 mois avant de le recevoir. Mais cette chaîne tient à un fil, ça tient si les gens veulent bien que ça tienne. Alors, le début de la chaîne, c'est évidemment l'auteur qui confie son manuscrit à l'un des 300 éditeurs du Québec. Ensuite, l'éditeur, lui, s'il accepte de publier, évidemment, c'est pas toujours, les auteurs sont souvent en quête d'éditeurs, l'éditeur recevra un peu plus de 30 % du prix de vente. Il revise le manuscrit, le met en forme, le fait imprimer, puis il le fait parvenir à un distributeur qui s'occupera d'expédier l'ouvrage aux quelques 200 librairies agréées de la province. Le distributeur, c'est l'intermédiaire obligé entre l'éditeur et le libraire. Dans son entrepôt sont stockées les publications des dizaines de maisons d'édition québécoises et européennes qu'il représente. C'est lui qui reçoit les commandes des librairies et qui voit à ce que les livres se retrouvent dans leurs rayons. Pour ce travail, il touche 17 % du prix de détail des ouvrages. 3 distributeurs de langue française au Québec contrôlent 90 % du marché. Le libraire doit forcément s'approvisionner chez les distributeurs. Il ne peut pas acheter directement auprès des éditeurs. Les distributeurs envoient automatiquement au libraire un certain nombre d'exemplaires de toutes leurs nouveautés sans que celui-ci ait besoin de les commander, afin que les nouvelles parutions soient rapidement accessibles en magasin. Pour être agréé, le libraire doit obligatoirement garder ses nouveautés à l'étalage pendant au moins 4 mois, après quoi il peut retourner la marchandise invendue au distributeur. Pour conserver son agrément, le libraire doit aussi maintenir un stock d'au moins 6 000 titres différents, dont 2 000 Québécois. En contrepartie, il touche 40 % du prix de détail des livres. Il obtient aussi le droit de vendre aux organismes publics de sa région un marché alléchant, parce que les bibliothèques publiques sont tenues d'acheter leurs livres auprès des libraires agréés de leur région, à l'instar d'autres organismes publics, comme les municipalités, les écoles et les cégeps. Récapitulons, le libraire, lui, touche 40 % du prix de vente, le distributeur 17 % l'éditeur 30 % et celui qui était au début de la chaîne, là.
Combien?
José Blanchette, là, qui prévoit de publier un livre, là. 10 % peut-être un peu plus si elle a de la chance, c'est de bons éditeurs. Alors, c'est ça pour la chaîne du livre qui est décryptée. C'est dans l'actualité de décembre par Noémie Mercier. Maintenant, dans l'actualité du mois de mars, on a une vitrine du livre. On nous parle des récentes publications. Et il y a un livre intéressant qui vient d'être publié où on parle, le titre, c'est « Une idylle sans aventure ». C'est le roman sans aventure par Isabelle Daunet. Le titre du livre, c'est le roman sans aventure. Isabelle Daunet, professeure de lettres françaises à l'Université McGill, n'est pas la première à se demander pourquoi le roman québécois est très peu lu et reconnu à l'étranger, alors qu'il connaît chez lui un succès indéniable. Dans « Le roman sans aventure », elle explique, exemple à l'appui, que de manière générale, les œuvres phares de la littérature québécoise, celles enseignées dans les cours de littérature, sont marquées par la célébration de l'idylle aux dépens de l'aventure. La première, l'idylle, se traduisant par la conviction chez les personnages de vivre dans un monde parfait, un univers épargné par les grandes questions existentielles de l'histoire. La seconde, l'aventure, faisant cruellement défaut au roman québécois, l'empêchant de trouver grâce aux yeux d'un public étranger. Pour Daunet, la littérature québécoise n'est même pas marginale. Elle s'inscrit en dehors de la relation entre le centre et la marge. Je ne sais pas trop où est-ce que ça se trouve. perdu quelque part dans une idylle soporifique parlant d'elle-même à elle-même. Ainsi, depuis les années 1960, les écrivains québécois produiraient des personnages « planqués », entre guillemets, c'est-à-dire qui s'isolent consciemment du monde, qu'il s'agisse d'Alexandre Chênevert, de Gabriel Roy ou de la multitude de personnages de romans québécois qui sont écrivains, c'est-à-dire isolés dans cette idylle qu'est l'écriture. Éric Dupont, qui rédige ce petit texte, écrit ceci. Cette thèse est convaincante, mais parvient-elle à expliquer les difficultés d'exportation de la littérature québécoise? La réponse ne se trouve-t-elle pas aussi ailleurs? Par exemple, dans le fonctionnement de la chaîne du livre mondial, qui a toujours privilégié les œuvres issues des grands pôles de production littéraire, sans égard à leur qualité intrinsèque. Une invitation au débat, dit-il. C'est une opinion. Dernier texte, dernier livre, qui s'appelle « Une planète trop peuplée », point d'interrogation. C'est publié par Angus et Simon Butler. L'accroissement de la population serait-il la cause des problèmes environnementaux? Ian Angus et Simon Butler, militants pour l'environnement, déboulonnent de manière magistrale cette vieille thèse. Selon eux, les populationnistes, ceux qui croient que la surpopulation est à l'origine de la crise écologique, ont depuis toujours proposé des solutions d'une moralité douteuse, telles la stérilisation des populations pauvres et la limitation de l'immigration dans les pays développés. Or, les auteurs démontrent par un argumentaire solide qu'il s'agit là de fausses pistes qui participent d'une écologisation de la haine sans trouver de vraies solutions à un problème systémique lié à la consommation effrénée d'une petite partie de l'humanité. Alors, c'est dans la vitrine du livre, dans l'édition du mois de mars du Reader, pas du Reader's Digest,
de l'actualité,
qu'on trouve ce texte.
Écoutez Kiosque Magazine.
Alors, vous avez repris votre santé en main, vous mangez sainement, vous faites de l'exercice et vous avez cessé de fumer.
Merci beaucoup pour le compliment.
Mais saviez-vous que votre environnement à la maison peut nuire à vos beaux efforts? Le point sur trois éléments essentiels. Le premier, l'air. Fait étonnant, l'air intérieur d'une maison conventionnelle est 3 à 4 fois plus pollué que l'air extérieur. Bien qu'invisibles, les polluants sont en effet omniprésents dans notre milieu de vie. Qui sont-ils? La fumée du tabac. Plus de 3000 substances chimiques, dont plusieurs toxiques, ont été identifiées dans le tabac. Conséquence, selon Santé Canada, le tabagisme est associé à plus de 24 maladies et affections, telles la bronchite chronique, le cancer du poumon, les maladies cardiovasculaires et le cancer de la bouche. Vous ne fumez pas? Sachez que la fumée secondaire peut être aussi nocive que celle qui est inhalée. Il n'existe qu'une solution pour ne pas être exposé à tous ces contaminants, que personne ne fume dans la maison. Aussi, le monoxyde de carbone, le CO. Ce gaz inodore et incolore provient notamment des appareils de combustion, chaudières, foyers ouverts, générateurs de chaleur, chauffe-eau à gaz ou à mazout. Tout cela en mauvais état ou mal entretenu. Mais aussi, provient du gaz d'échappement des autos dans le garage. Une exposition légère peut provoquer des maux de tête, des nausées, de la fatigue, voire de la confusion mentale. Et une exposition importante peut être fatale. Donc, maintenez vos appareils et conduits en bon état et installez des détecteurs de CO à chaque étage de la maison et dans le garage. Aussi, les moisissures. Les atmosphères humides et les infiltrations d'eau contribuent au développement des moisissures, dont les particules se répandent ensuite dans l'air. En plus de causer des dommages aux matériaux, une présence importante peut entraîner des problèmes de santé comme les allergies, les maux de tête et les maladies respiratoires. Mesurez le taux d'humidité de votre résidence à l'aide d'un hygromètre. Règle générale, le taux d'humidité doit être inférieur à 50% l'été et autour de 30% l'hiver. Si l'humidité est trop élevée, essayez de la baisser avec des mesures simples. Détectez les infiltrations d'eau, colmatez les fissures, aérer les pièces été comme hiver. Ne gardez pas de bois de chauffage dans la maison. Évitez de faire sécher le linge à l'air libre à l'intérieur. Vérifiez et nettoyez tous les systèmes de ventilation. Faites fonctionner la hotte de la cuisine et le ventilateur de la salle de bain, tout particulièrement lorsque vous utilisez ces pièces. Il y a aussi les particules volatiles. Elles représentent l'un des principaux allergènes de la maison et l'une des premières causes d'affections respiratoires, dont l'asthme. Les particules les plus courantes, les excréments des acariens. Ces micro-insectes prolifèrent dans les endroits chauds, humides et poussiéreux. Ils se nichent, entre autres, dans les matelas, les meubles rembourrés, les tapis, les couvertures et les édredons, les oreillers et les coussins et les vêtements. Ouais. Quelques gestes pour réduire leur nombre, remplacer les canapés en tissu par des meubles en cuir, limiter l'usage des tapis, les rideaux lourds, les coussins, ne surchauffez pas les pièces, maintenez un taux d'humidité au-dessous de 50%, recouvrez d'une housse anti-acarien avec fermeture éclair tous les sommiers, matelas et oreillers pour éviter d'être en contact direct avec eux.
Elle nous fait peur, cette madame.
Eh oui, oui, oui. Aérez les lits pendant 30 minutes. Lavez toujours votre literie à l'eau chaude et séchez-la à haute température. Et autre élément qu'on retrouve dans l'air, ce sont les composés organiques. Les COV sont des substances chimiques qui se transforment en gaz à la température ambiante. Ils sont ensuite libérés dans l'air intérieur. Les concentrations de COV présents à l'intérieur des habitations atteindraient parfois des taux 1000 fois supérieurs à ceux de l'extérieur. On les trouve notamment dans la fumée des cigarettes, le mobilier, les matériaux de construction, les colles, les vernis, les bois agglomérés, les peintures. À forte dose, ils peuvent occasionner, entre autres malaises, des irritations, des nausées, des maux de tête, de la fatigue, des allergies. Tous ces troubles-là. Que faire ? On sélectionne des matériaux et des peintures sans COV et à faible teneur en COV. Ou en faible teneur en COV. Recherchez le label écologo si vous rénovez. Optez pour des colles, vernis, teintures et après à base d'eau. Aérez régulièrement la maison et plus encore lors de gros travaux. Deuxième nuisance, le bruit. On est exposé quotidiennement à différentes sources sonores, y compris chez soi. Il suffit de penser au bruit occasionné par le téléviseur, les systèmes audio, les appareils électroménagers, les systèmes de ventilation et bien sûr les conversations animées.
Mais pas la radio.
Pas la radio, pas Canal M. Sans compter tous les bruits extérieurs, voisinage, trafic routier, aérien et ferroviaire, qui se faufilent au cœur même de la maison. Or, il a été clairement démontré qu'une exposition quotidienne et répétée au bruit peut être nuisible à la santé physique et mentale. Elle peut engendrer des troubles du sommeil, des problèmes de concentration, l'irritabilité, la fatigue et des dommages auditifs. Des études ont aussi révélé que le bruit peut causer un stress important et augmenter par le fait même de développer certaines maladies liées au stress. Quelques solutions ? Isoler adéquatement les murs pour diminuer les bruits extérieurs, installer des fenêtres étanches à l'air et à double vitrage, baisser le volume du téléviseur, de la chaîne stéréo, retenez les portes et les tiroirs au lieu de les claquer. Portez des chaussons plutôt que des chaussures. Disposez des tapis aux endroits les plus passants. Enfin, troisième et dernier élément, la lumière. La lumière naturelle est le plus grand synchronisateur de l'horloge biologique. Plus la lumière est vive et plus l'exposition est longue, plus cette lumière agit positivement sur les rythmes circadiens qui correspondent à une période de 24 heures. Ainsi, on sait que la lumière du jour déclenche la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress positif qui mobilise les énergies pour aider à attaquer la journée du bon pied. À l'inverse, elle empêche la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. La lumière naturelle aide donc à régulariser le cycle sommeil-éveil. Le hic, à cause de nouvelles technologies, nous passons de plus en plus de temps enfermés entre quatre murs. Or, l'intensité lumineuse à l'intérieur de nos maisons est beaucoup plus faible qu'à l'extérieur. Alors, des solutions simples. Sortez dehors au moins 30 minutes par jour, idéalement le matin. Ouvrez grand les rideaux pour laisser entrer la lumière du jour. Installez un grand miroir sur le mur opposé d'une fenêtre pour qu'il puisse réfléchir et diffuser la lumière dans toute la pièce. Multipliez les sources lumineuses. Établissez une routine de sommeil et d'éveil. Tamisez les lumières le soir. Évitez de lire sur une tablette lumineuse avant le coucher. Dormez dans une pièce sombre et utilisez la luminothérapie si nécessaire. Voilà, c'était donc votre milieu de vie est-il sain ? quelques éléments écrits par Jacqueline Simoneau dans la revue Le Bel Âge de février 2015.
Le pharmacien, vous avez bien compris, c'est un texte qu'on retrouve dans le Reader's Digest du mois de février. Il est signé ce texte par Sophie Mangado, le pharmacien, impertinent et audacieux. Olivier Bernard, alias le pharmacien, sévit en ligne depuis plus de 2 ans. Avec humour et un sens de la vulgarisation inégalée, ce drôle de pharmacien de profession déjoue les mythes infestant le monde de la santé. Question. Votre récent livre, Le pharmacien, s'ouvre sur une représentation géographique de votre univers fictif. Vous reléguez tout ce qui relève des médecines dites « douces » à des zones obscures. En dehors de la médecine occidentale, rien ne trouve grâce à vos yeux? Pas du tout. J'essaie d'encourager les gens à avoir un esprit critique. En tant que pharmacien, mes recommandations sont scientifiquement fondées. On peut bien sûr rétorquer que la science n'a pas forcément réponse à tout, c'est vrai. Mais lorsqu'on n'a pas de preuves, il faut garder une certaine retenue. Malheureusement, dans le monde de la santé dite « alternative », j'en observe rarement de la retenue. On lance plutôt des affirmations farfelues et infondées. Question. C'est ce qui vous a incité à lancer votre blog « Le pharmacien ». Ma motivation première était de m'attaquer aux croyances erronées sur la santé. Cela peut être des choses aussi banales que la différence entre le rhume et la grippe. Vous estimez que l'on peut faire dire ce que l'on veut à une étude scientifique, pourquoi ce scepticisme? J'ai toujours eu l'esprit critique. Mes études en pharmacie et mes années au sein d'un laboratoire m'ont fait comprendre à quel point la science est fragile. J'ai gardé le réflexe de tout remettre en question, de ne rien tenir pour acquis en matière de science. Comment se repérer face à la multitude d'informations accessibles? Il faut poser des questions. Quand on n'a pas les connaissances scientifiques nécessaires pour détecter d'emblée une imposture, cela reste la meilleure arme. Posez des questions. On vous dit que le gluten est mauvais pour vous? Posez toutes les questions possibles. Qui t'a dit ça? Tu l'as vu à la télévision? Dans quelle émission? Qu'est-ce qu'on y disait exactement? Selon toi, ce que tu as entendu a-t-il été prouvé? Si votre interlocuteur ne sait pas de quoi il parle, vos questions feront ressortir les failles. C'est ma tactique numéro 1 quand je débat avec quelqu'un, le presser de questions. Votre livre ne contient quasiment pas de références. Comment vos lecteurs peuvent-ils être certains que vos affirmations sont justes? Vous avez tout à fait raison, mais je ne lance jamais d'affirmations scientifiques extravagantes ou s'éloignant des bases de la science. Tout ce que je dis est élémentaire, par exemple. On entend souvent dire que ce qui est naturel est bon, et que ce qui est chimique est mauvais. Ceux qui affirment ça ne comprennent pas ce qu'est une molécule. C'est pourtant l'ABC de la science, effectivement. Je ne donne pas de références dans mon livre, mais je traite de questions simples, quoique méconnues, et rarement de sujets complexes. Dans ce cas, j'indique mes références. On peut avoir l'impression que je fais des déclarations délirantes, mais c'est mon humour qui l'est. Délirant, oui. Vous vous documentez beaucoup avant de vulgariser quelles sont vos sources? J'ai recours à des spécialistes. Par exemple, le chapitre sur le chimique et le naturel a été révisé par un pharmacien, chimiste organique de formation. Actuellement, je travaille sur une BD à propos du cancer et je la fais réviser par 2 oncologues. Je puise aussi beaucoup dans les publications scientifiques avec des sources solides, fiables et indépendantes, telles que les méta-analyses Cochrane ou le site Science-Based Medicine. Quelle partie du monde imaginaire du pharmacien aimeriez-vous visiter pour des vacances en dehors du royaume de la science? J'irai faire un tour du côté des plaines détoxifiées. J'ai eu des discussions avec des naturopathes aux propos tellement convaincants. Scientifiquement, cela n'a aucun sens, mais c'est très séduisant cette idée géniale qu'on accumule des déchets, ce qui expliquerait notre fatigue et notre prise de poids. Ce serait bien, mais cela révèle une totale méconnaissance du fonctionnement du corps humain. Dans un monde idéal, le pharmacien n'existerait pas. Ça, c'est la dernière question qu'on lui pose. Il dit, j'aspire à mon autodestruction. J'aimerais que les gens développent un meilleur esprit critique, qu'ils fassent des choix plus avisés et voir ainsi, de mon vivant, l'homéopathie et les cures détox disparaître des pharmacies. Si cela arrivait, je n'aurais plus de raison d'être. On me demande parfois pourquoi je trouve à redire aux gens qui ont recours à l'homéopathie ou aux cures de détox... détoxification. Encore pire. Honnêtement, rien. Mais quand des individus prodiguent des conseils loufoques sous une apparence scientifique, il est de ma responsabilité de pharmacien d'agir. Le pharmacien, c'est dans la revue Reader's Digest du mois de février. Maintenant, j'ajoute quelques petites nouvelles médicales, si je puis. Oui, j'ai un peu de temps. Nouvelles du monde médical. Alors, est-ce qu'un médecin clown qui fait le pitre à l'hôpital fait du bien aux patients?
Je pense que oui.
Des chercheurs italiens, pas n'importe qui, là, ont comparé l'anxiété de jeunes patients et de leurs parents rencontrant un médecin clown avant une opération de l'oreille, du nez ou de la gorge avec le niveau d'inquiétude de ceux ayant reçu une consultation ordinaire. Réponse: si les clowns médecins sont bénéfiques aux enfants avant une intervention chirurgicale, ils ne semblent en revanche pas rassurer du tout les adultes.
Oui.
Question, mesdames, c'est peut-être exaspérant, mais si votre mari oublie le pain ou le lait en revenant alors qu'on le lui a demandé, est-ce que c'est anormal? Non, c'est naturel, dit ce texte. C'est un texte très savant. Ce qu'affirment des chercheurs de l'Université norvégienne de sciences et de technologie qui ont interrogé 48 000 personnes sur leur mémoire. Les hommes disaient avoir plus de difficultés que les femmes. Même les chercheurs ont été surpris, selon le professeur Jostein Holmann. Il était également étonnant de découvrir que les hommes sont aussi étourdis à 30 ans qu'à 60 ans. Tiens, tiens. Plus rassurant, beaucoup d'individus des deux sexes n'ont que de petits problèmes de mémoire. Besoin d'un coup de pouce? Téléchargez une application pour faire les listes sur votre téléphone et oubliez les bouts de papier trop faciles à perdre.
Oui.
Bon, quelques petites nouvelles médicales, donc, pour clore cette partie de notre émission.
Ma jolie, oh, do you do? Mon nom est Jean-Guy Thibault-Leroux. I come from east of Gatineau. My name is Jean-Guy, ma jolie. J'ai une maison à la fontaine, where we can live if you marry me. Une belle maison à la fontaine, where we will live, you and me. Oh Louise, ma jolie Louise, ma jolie Louise. Tous les matins au soleil, I will work till work is done. Les matins au soleil, I did work till work was done. And one day, the foreman said, Jean-Guy, we must let you go. Et puis mon nom, y est pas bon, à 2000 anymore. Oh, Louise, I'm losing my head, I'm losing my head. My kids are small, 4 and 3. Et la bouteille, she's mon ami. I drink the rum till I can see. It hides the shame, Louise, doesn't it see? A carousel turns in my head, and I can't hide. Oh, no, 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 no. And the rage turned in my head. Septembre 63, kids are gone, and so is Louise. Ontario, did it go? Near la ville de Toronto. Now my tears, they roll down tous les jours. Oh, oh, oh. And I remember the days and the promises that we made. Oh, oh Louise, I surely joli, oh du doudou. Mon nom est Jean-Guy Thibault Leroux. I come from east of Gatineau. My name is Jean-Guy, ma jolie.
C'était Isabelle Boulay. Et maintenant, intervenir dans les conflits de nos enfants adultes. Vous adorez vos enfants, vous faites tout pour qu'ils soient heureux. Alors, quand survient un conflit avec leur tendre moitié ou entre eux, vous avez tendance à vous en mêler afin d'aider à le résoudre rapidement. Une bonne idée ? Non, pas vraiment. Quand Andréane et Frédéric se trouvent dans la même pièce, l'atmosphère se charge d'électricité. Les détails les plus anodins deviennent pour le frère et la sœur prétexte à des disputes interminables, parfois même explosives. Depuis un conflit mettant en scène l'éducation de leurs enfants respectifs, ils n'arrivent pas à faire la paix, raconte Micheline, la mère des protagonistes. Aucun ne veut admettre ses torts ni faire de compromis. Julien et Isabelle, eux, sont en couple, mais depuis quelques mois, leur relation bat de l'aile. Les altercations se produisent de plus en plus souvent. Même que certains jours, les répliques sont particulièrement cinglantes aux grandes dames des parents de Julien, qui aiment bien leur fils, mais aussi Isabelle. De telles scènes vous sont familières ? Lorsque les disputes impliquent nos enfants, cela nous touche profondément. Normal. Aucun parent ne veut que ses chéris vivent des difficultés ou des conflits, même si cela fait partie de la vie. Mais à moins que la situation ne dégénère en violence, mieux vaut ne pas s'immiscer dans leur vie privée, ni tenter de trouver un coupable. La seule chose que l'on réussirait à déclencher, c'est une escalade de tension. S'il y a une chose qu'il faut éviter dans la vie, c'est bien d'être pris dans un triangle, soutient la psychologue Brigitte Hénaud. Par conséquent, si on n'est pas directement impliqué dans le conflit, on ne doit pas intervenir. Cela ne nous appartient pas. Les enfants doivent donc résoudre leurs conflits eux-mêmes. Mais rien ne nous empêche d'être à l'écoute et d'offrir notre soutien à celui qui le demande. On l'écoute bien sûr, mais sans porter de jugement sur l'un ou l'autre des individus impliqués, recommande Brigitte Hénaud. On évite ainsi aussi de lui dire ce qu'il doit faire ou ne pas faire. D'autant plus que si nos suggestions ne fonctionnent pas, cela risque de se retourner contre nous. En revanche, on peut lui proposer des pistes de réflexion, comme « As-tu essayé telle chose ?» ou « As-tu pensé à lui dire telle chose ?» Cela va l'outiller pour entreprendre sa réflexion. La psychologue José Jacques abonde dans le même sens. C'est aux protagonistes de trouver une façon de résoudre leurs différends, assure-t-elle. Les parents ne doivent surtout pas tenter de régler les problèmes à la place de leurs enfants. C'est comme s'ils leur disaient qu'ils ne sont pas capables de faire les choses sans eux. Donc, on ne va pas au-devant de leurs souhaits. On attend qu'ils nous demandent conseil pour intervenir. Certains le feront, d'autres pas. Il faut accepter qu'il en soit ainsi. S'ils le font, on peut cependant leur faire part en utilisant le « je », J-E, de ce que l'on vit et ressent de les voir en conflit, mais sans culpabiliser ni s'étendre longuement sur le sujet. Ne jouez pas à l'arbitre. Là où ça se gâte souvent, c'est lorsqu'un enfant se confie dans l'espoir que les parents prennent position dans le conflit, en sa faveur évidemment. On risque alors de nourrir la rivalité et d'envenimer la situation en créant un autre conflit, explique Brigitte Hénaud. Puis on se trouve carrément piégé. On prend pour lequel ? Automatiquement, on vient de se mettre une des personnes à dos. Comme parent, on doit être suffisamment solide pour refuser de prendre parti, même s'il s'agit d'un conflit entre son enfant et sa conjointe, et que, tout naturellement, on penche pour son rejeton. En refusant d'afficher une position, on lance le message qu'on a confiance en eux et qu'on les sait capables de régler cette querelle entre eux. Une fois adultes, les enfants doivent assumer leurs choix, leurs batailles et leurs décisions. Cela dit, certains parents préfèrent fermer les yeux sur les conflits de leurs enfants en faisant comme s'ils n'existaient pas. Ils refusent même d'en entendre parler. Mais l'évitement n'est pas une bonne idée, assure José Jacques. Même à l'âge adulte, l'enfant qui réclame une écoute de ses parents dans une période conflictuelle de sa vie ressentirait alors un sentiment de rejet ou d'abandon de la part de personnes qui sont significatives pour lui. Il vivrait donc un double problème. Bref, l'évitement n'est jamais approprié. Même si l'on ne fait qu'écouter et reconnaître que notre enfant vit actuellement des moments difficiles, cela lui sera bénéfique. Et ainsi, on maintient le lien, c'est ce qui compte. Voilà, c'était « Intervenir dans les conflits de nos enfants adultes » écrit par Jacqueline Simoneau dans la revue Le Bel Âge de février 2015.
C'est plein de bon sens.
Alors, quelques brèves. C'est la loi. C'est une réponse de Jacqueline Simoneau dans Le Bel Âge de février 2015 à cette question. Si un policier m'arrête pour une infraction au code de la sécurité routière, peut-il saisir ma voiture parce que j'ai une contravention impayée ?
Pourquoi pas ?
Eh oui, et absolument. Quand vous omettez d'acquitter une contravention dans les délais requis, un verdict de culpabilité est prononcé contre vous. Si vous ne donnez pas signe de vie, l'organisme judiciaire municipal transmet un avis de non-paiement à la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAC, qui suspend votre permis de conduire après vous avoir avisé par lettre. De plus, les véhicules immatriculés à votre nom ne peuvent plus circuler, même si c'est un autre conducteur dont le permis est valide qui est au volant. Par conséquent, si vous conduisez alors que votre permis est suspendu, le policier qui vous intercepte saisira le véhicule sur le champ, qu'il vous appartienne ou non. Vous recevrez en prime une amende pour avoir circulé dans une telle situation. Et par ailleurs, vous devez acquitter les frais de remorquage et de garde du véhicule à la fourrière. Le véhicule sera saisi pour une période d'au moins 30 jours, même si vous acquittez la somme due le jour même. Le paiement de l'amende fera toutefois lever la suspension de votre permis, ce qui vous permettra d'être au volant d'un autre véhicule. Vous pouvez toutefois demander de reprendre possession de votre véhicule avant la fin de la saisie en remplissant un formulaire de demande de main levée de saisie auprès de la SAC. Enfin, sachez que vous devez absolument reprendre possession de votre voiture dans les 10 jours suivant la fin de la saisie. Après ce laps de temps, la SAC entreprend les démarches pour la vendre aux enchères.
Alors, un Montréalais qui se fait arrêter en Gaspésie, comment fait-il pour rentrer chez lui?
Il prend le taxi.
Voici maintenant, ça c'est la vérité vraie parce que c'est publié dans le Reader's Digest, la diva terrassée. Au mois de mai 2013... un vol d'American Airlines reliant Los Angeles à New York a dû faire un atterrissage forcé à Kansas City, dans le Missouri. Un orage? Non. C'était une passagère refusant de cesser de chanter à tue-tête. Le maréchal de l'air, décidant finalement qu'il en avait assez entendu et que ses vocalises gênaient l'équipage, arrêta la femme. La police locale l'escorta ensuite hors de l'appareil, toujours en train de chanter. Libérée plus tard, sans inculpation, la chanteuse et conduite n'a pas obtenu de contrat dans une maison de disques ni un vol de retour. Puis on ne dit pas ce qu'elle avait.
Oui, c'est dommage.
C'est bizarre.
Maintenant, une envie sous la douche. Faire pipi sous la douche permettrait de sauver la planète. L'idée paraît farfelue. Et pourtant, l'université d'East Anglia en Angleterre a demandé à ses étudiants de se soumettre à ce petit rituel du matin pour économiser l'eau. Les deux instigateurs de l'expérience, appuyés par leur recteur, ont fait le calcul. Uriner chaque matin sous la douche plutôt que dans la toilette permettrait d'économiser l'équivalent de 26 piscines olympiques par an. Au Brésil, l'organisme SOS Forêt Atlantique a déjà lancé une campagne semblable auprès des citoyens brésiliens, estimant que pour chaque personne qui évite de tirer la chasse d'eau, ne serait-ce qu'une fois par jour, on économise 4380 litres d'eau potable par année.
Et mon Dieu, on en apprend des choses. Lac Saint-Jean, l'autre traversée du lac Saint-Jean. Après la traversée à la nage, voici la traversée à vélo. Le 28 février prochain, les 70 cyclistes affronteront les rigueurs de l'hiver jeannois. La compétition, qui affiche complet depuis le mois de novembre, accueillera 9 participants internationaux venant des États-Unis, d'Italie, de Belgique et de Colombie. L'hiver dernier, lors de la première édition, la neige et le vent avaient grandement ralenti les cyclistes. Ils avaient mis plus de 8 heures pour parcourir les 30 kilomètres qui séparent Péribonka de Roberval, soit le même temps qu'il faut aux nageurs. L'été, pour faire ce trajet. Afin d'accélérer la cadence cette année, le parcours sera damé, avant la compétition. Les cyclistes devraient établir un nouveau record sans difficulté. La popularité du vélo d'hiver est en forte croissance depuis l'arrivée des fat bikes, des bicyclettes à pneus surdimensionnés jusqu'à 12 cm de large qui permettent de rouler plus efficacement sur la neige. C'est mieux que des raquettes, dit Jean-Sébastien en région. Bon, alors c'était le Kiosque Magazine que nous avions à vous proposer aujourd'hui. Ici Franceline Nieuviat, Roger Roy et Jean-Sébastien Laliberté, nous vous disons...
À la semaine prochaine.
Au revoir.